Cet après-midi, c'est notre dernier épisode avant le temps des fêtes. Eh bien, qu'est-ce qui rime avec temps des fêtes? C'est championnat mondial junior. Donc, l'épisode est consacré pour ce tournoi qui commence le 26 décembre. On va faire un tour vite fait de toutes les équipes et un peu notre classement qu'on prévoit pour ce tournoi. Bon épisode.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode spécial de Dans le Mille. Donc aujourd'hui, c'est un épisode excitant pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que comme je le dis au début, on parle de World Junior, le tournoi le plus attendu pour beaucoup de personnes à chaque année. Et puis, tu sais, ça rime avec le temps des fêtes. C'est toujours un tournoi extrêmement plaisant. Et puis deuxièmement, parce que pour la première fois en 2 mois, si je me souviens bien, je suis accompagné de Jules, ouais. Fait que ça augure bien pour l'année 2025, puis on est content de te retrouver. Jules, comment ça va?
Ça va super bien. Ça veut juste dire bonne nouvelle que je suis back. Puis justement, comme tu l'as dit, le championnat mondial, c'est comme à chaque année, c'est un moment précieux dans l'année. Tu sais, c'est là où est-ce qu'on est proche de la famille et tout. C'est un moment où est-ce que la plupart du monde est heureux. Et le championnat mondial, ben ça fait juste augmenter le niveau de bonheur chez les partisans de hockey comme nous. Donc, j'ai juste hâte que ça commence. Fait que lançons-nous dans les sponsors, puis ensuite on peut.
Ouais, exactement. Fait que, écoutez, pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit hors glace ou sur glace, perfoelite.com, une équipe de professionnels, que ce soit justement des entraînements qui soient plus mentaux ou bien plus dans le gym pour vos muscles, perfoelite.com. Et puis, comme d'habitude, on remercie eliteprospects.com, le site de statistiques gratuit le plus complet en ligne. Mais quand vous avez l'abonnement premium, c'est encore plus complet. Vous avez des comparaisons de joueurs, des game logs, donc tous les matchs que les joueurs ont joués, combien de points ils ont eu, combien de minutes. Et puis avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel Elite Prospect. Donc eliteprospect.com, DLM30, 30% de rabais sur l'abonnement annuel. Donc écoute, Jules, rentrons. Je te laisse expliquer un peu comment est-ce qu'on va faire l'épisode. Puis on a un épisode chargé, fait qu'on va rentrer directement dans le sujet après ça.
Ouais, ben en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est que au final, le tournoi, au final, il y a un classement de 1 à 10. Donc oui, il y a le gagnant, mais il y a vraiment un classement jusqu'au 10e. Il y a un match de relégation, donc le 10e à chaque année est relégué au championnat junior A, division A, désolé. Il y a une équipe qui gagne le championnat junior division A qui va monter l'année d'après. Donc, on va commencer avec l'équipe qui, selon nous, est la 10e au classement, celle qui va se faire reléguer, et on va remonter jusqu'à, selon nous, l'équipe qui va gagner le tournoi. Comme vous savez, il y a deux groupes, mais pour le classement, c'est pas important vraiment les groupes parce qu'au final, il y a un classement par ordre de numéro, donc c'est pas juste ah, t'es premier dans le groupe A, premier dans le groupe B. Mais juste pour l'information, je pense que c'est pertinent de dire c'est quoi les équipes dans chaque groupe. Donc, le groupe A, c'est Canada, États-Unis, Finlande, Lettonie et l'Allemagne. Et le groupe B, t'as la Suède, la Tchéquie, la Slovaquie, la Suisse et le Kazakhstan. Donc, sans peut-être surprise, l'équipe qui, selon nous, va terminer en étant celle reléguée, c'est la nouvelle équipe qui vient de monter dans le tournoi top du monde. Donc, c'est le Kazakhstan qui, eux, justement, ont pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Ils n'ont aucun joueur qui a été repêché dans la Ligue nationale et ils n'ont aucun joueur qui est vraiment un potentiel de l'être dans les 2 prochaines années, là. Quelque chose qui était intéressant que je pourrais dire, c'est que la plupart du temps, quand une équipe gagne le championnat de division A, l'année d'après, les joueurs qui avaient gagné le championnat, ben en fait, ils sont plus là parce que c'était des gars de 19 ans. Donc, l'année d'après, l'équipe se ramasse avec une complètement nouvelle équipe. Donc, c'est un peu comme ils ont l'équipe d'avant ont donné l'opportunité aux jeunes de se rendre, mais c'est pas du tout le même calibre. Par contre, cette année, c'est vraiment majoritairement des 19 ans qui sont avec le Kazakhstan. Donc, c'est la plupart des joueurs qui ont gagné le tournoi l'année passée. Donc, ça, c'est intéressant à noter. Est-ce qu'ils vont avoir déjà une connexion et une envie de gagner pour peut-être surprendre un peu? On ne sait jamais. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter sur cette équipe-là. Je veux dire, c'est une nouvelle équipe.
Ben, c'est ça. Comme tu as dit, écoutez, la façon dont on va marcher, on va présenter l'équipe en groupe, puis après ça, aller regarder s'il y a des joueurs qui sont intéressants, soit qui sont déjà repêchés, qui jouent déjà en AHL, LNH, peu importe, ou bien des joueurs éligibles au repêchage, puis avec le Kazakhstan, écoutez, ça va être intéressant de les voir jouer. On peut tout le temps avoir des énormes surprises là-dedans, mais réalistiquement, il n'y a pas de joueurs qui sont déjà qui ont des chances de faire la LNH, puis il n'y a pas de joueurs qui ont des chances de se faire repêcher au repêchage 2025. Donc, aller micro-analyser les joueurs, ce serait un peu compliqué. Après, on ne sait jamais. En arrivant au tournoi, est-ce qu'on pourrait avoir une belle surprise? On verra. On leur souhaite en tout cas.
Ouais, ben c'est ça. Puis aussi, juste pour leur groupe, là, je me dis, le step est quand même gros entre eux puis la quatrième équipe, selon nous. Mais donc, on va passer direct à la neuvième équipe. Donc, c'est une équipe du groupe A et c'est l'Allemagne. On pense que l'Allemagne va finir au bas du classement. Même s'ils ont eu des bonnes années, là, on peut se rappeler des Reichel, Stützle, Peterka, et même qu'ils avaient d'autres joueurs, le Munzenberger et autres. Cette année, c'est un peu faible. Je pense que vraiment le principal, là, c'est Panocha, un joueur qui avait joué pour les Saguenay l'année passée et que cette année, il a joué un peu en WHL avec les Prince Albert, ben avec Prince Albert. Et là, ils sont en USHL, donc ils se promènent beaucoup. Ils se promènent beaucoup, mais donc c'est ça.
Ouais, c'est ça. Pour l'Allemagne, écoutez, comme pardon, comme tu l'as dit, c'est une équipe que, en tout cas, ça varie vraiment. Là, on a des QV où ils arrivent, puis là, l'Allemagne, on se dit, hey, ça pourrait être une équipe qui vient vraiment surprendre. Ils sont dans une bonne lancée, puis il y en a plusieurs. Mais cette année, c'est pas une de ces années-là, puis c'est pour ça qu'ils sont, tu sais, 9e. D'habitude, on a l'habitude de le voir peut-être un peu plus haut. Il y a même des années où ils sont potentiellement en compétition avec Suisse, Slovaquie. Mais ce n'est pas une de ces années. Par contre, je voulais quand même mettre le focus sur Carlos Hendel. Un défenseur de 6 pieds 1 qui a joué au tournoi de début d'année, excuse-moi, Ilinka, je pense, justement, avec l'Allemagne, puis qui avait été assez impressionnant depuis le début de la saison à LHGMQ. On le garde dans les noms pour comme les meilleurs défenseurs éligibles au repêchage de la LHGMQ. Pour le moment, il ne montre pas encore grand-chose. On a quand même une bonne production de points, donc 11 points en 23 matchs, mais moi, je trouve qu'il est sur le côté un peu plus safe, qui monte pas encore assez de flash pour justifier d'aller le prendre très haut, même s'il n'y a pas d'énormes lacunes dans son jeu. On est loin d'un défenseur très excitant. Donc, j'ai hâte de voir, tu sais, de le voir jouer contre les grosses équipes, de voir si justement, contre les équipes un peu plus faibles, est-ce qu'on le voit prendre un peu plus de risques? Est-ce qu'on voit un côté de son jeu qu'on ne voit pas vraiment dans le junior, dans la LHGMQ? Puis de comparer ça avec ses matchs contre les grosses équipes, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'en ce moment, je pense que si Carlos Hendel veut justement, tu sais, sortir potentiellement dans les 5 premières rondes du repêchage, 4 premières rondes, potentiellement plus haut, c'est en ce moment qu'il faut mettre l'effort. Puis le World Junior, ça peut être le moment parfait pour lui de dire à tout le monde, hey, regardez-moi, je suis là. C'est pas parce que j'ai eu un début de saison un peu plus lent qu'il faut m'oublier. Fait que c'est maintenant ou jamais un peu pour Carlos Hendel, j'ai envie de dire, de relancer sa deuxième moitié de saison, puis prouver le défenseur qu'il est, puis montrer les mêmes flashs qu'il avait montré au Ilinka au début de la saison. Donc j'ai hâte de voir ça.
Ben c'est ça, en fait, je pense qu'au final, pour l'Allemagne, c'est vraiment juste dans ces deux défenseurs-là, le Panocha et Hendel. Les autres, malheureusement, on les connaît pas tant que ça. Je veux dire, c'est des joueurs qui jouent en Allemagne ou dans des divisions 2 ou 3, là. Donc, c'est un peu difficile pour nous de tant avoir une opinion. Puis sinon, à l'attaque, à part le joueur qui joue en LHMQ, Julius Sumpf, il y a pas grand-chose qu'on peut vraiment aller vérifier là directement. Donc, je pense qu'on a passé sur cette équipe-là. Pour la 8e, donc c'est peut-être une surprise et ça va être intéressant de voir ça. Mais on a la Lettonie. Et moi, un des points de pourquoi la Lettonie, je pense qu'ils ont un edge sur l'Allemagne. Pourquoi je pense qu'ils peuvent s'assurer de ne pas faire partie du match de relégation, contrairement aux dernières années, ben c'est qu'ils ont des joueurs comme Erik Mataiko, qui a vraiment eu, ben, qui moi est un joueur que j'aimais beaucoup pour le repêchage de l'année passée. C'est un late, donc lui c'est sa dernière année, mais un joueur de 6 pieds 6 comme ça, c'est un power forward. Est-ce qu'il produit offensivement? C'est pas vraiment sa grande force en LHMQ, même si ça fonctionne là. Il est capable de produire, mais c'est pas ça vraiment qui va aller le rendre dans la Ligue nationale. Et ils ont aussi un défenseur repêché là, donc Darrell Ujanskis. Mais moi c'est vraiment ces deux gars-là, je me dis ils peuvent donner le edge à leur équipe. Et quelque chose que je trouve intéressant puis que je souhaite que la Lettonie se fasse pas reléguer aussi, c'est que ils ont beaucoup basé leur équipe sur le futur. Donc, ils ont 4 joueurs qui sont nés en 2008, 3 joueurs en 2007 et 8 joueurs en 2006. Ce qui fait qu'environ, si ils étaient pour tout revenir, ça fait 15 joueurs qui pourraient jouer un deuxième ou troisième tournoi l'année prochaine. Ce qui comme est bâtir son équipe pour le futur là, dans un sens. Et la Tchéquie avait fait ça il y a 2-3 ans. Et bien, ça avait porté fruit quand ils s'étaient rendus en demi-finale contre le Canada.
Ben, c'est ça, écoutez, c'est une situation intéressante. Je pense qu'en regardant ça, on peut se dire que la Lettonie a une lecture un peu de la situation comme nous, où ils se disent que le Kazakhstan, ça va être une équipe facile à battre et qu'ils sont tombés dans une année où il y a une QV assez faible pour l'Allemagne, donc ils peuvent se permettre de prendre ce risque-là. Après, c'est un risque calculé, mais tu sais, un risque, ça insinue que ça pourrait complètement exploser dans leur face. Puis si c'est eux qui se font reléguer cette année, il y en a une couple qui vont bien se moquer d'eux, mais je pense que c'est quand même un bon gamble parce que s'ils réussissent à rester, puis justement revenir l'année dernière, c'est ça, c'est des joueurs de 2008 qui ont potentiellement l'expérience de deux World Juniors, puis qui vont peut-être pouvoir en faire une troisième. Donc, une bonne stratégie, mais il faut pas négliger le risque, même si je pense que c'est calculé cette année. Puis, écoutez, en Lettonie, un peu comme les deux autres équipes, on n'a pas 10 000 joueurs auxquels discuter. Il n'y a pas 10 000 joueurs qui pourraient faire la LNH, même s'il y en a quelques-uns. Et puis, ça va vraiment être intéressant de, comme je le dis, Mateiko, un produit de la LHMQ, 19 points en 23 matchs. C'est pas le plus grand producteur, comme je le dis, mais c'est quand même pas rien. Le mix de jeu physique qui amène avec cette production, tu sais, qui est pas négligeable, est quand même très bien. Puis c'est important aussi de noter que c'est rendu depuis cette année le leader, le capitaine de Saint John. Donc potentiellement que tu sais justement ça aussi ça peut être un atout. On va peut-être le voir être justement un peu plus un meneur de jeu pour son équipe, inspirer les autres à surperformer un peu. Donc ça va être vraiment sur lui. Moi je vous dirais de garder les yeux lors de ce repêchage-là, de ce World
Puis
Junior-là.
de ce World Junior-là, puis l'étonner aussi, faut pas s'étonner s'ils vont voler des matchs. On peut se
Ouais.
rappeler, je pense c'est l'année passée ou il y a 2 ans, ils avaient gagné contre la Finlande, ils avaient poussé les États-Unis vraiment, je pense, en prolongation. C'est une nation qui a l'air de souvent être les underdogs, puis d'apprécier ce rôle-là, puis de le mettre dans le visage de leurs adversaires. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Puis ça fait 3 4 ans là, de suite qu'ils sont dans le tournoi, puis qui reste, mais ils se ramassent souvent dans le match de relégation. Donc, je leur souhaite de ne pas avoir ça cette année. Donc, pour la prochaine équipe, la septième, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Ouais, la septième. Et donc, on y va avec la Suisse.
Ben, c'est ça, écoutez, la Suisse, on se retrouve. La Suisse, j'ai l'impression qu'on voit souvent des situations similaires où je trouve que c'est une équipe où le gap entre, admettons, la quatrième ligne et la première ligne va être un des plus gros. Dans le sens où, admettons, si on regarde la quatrième ligne de la Suisse cette année, on s'attend pas, encore une fois, un peu comme les autres équipes qu'on a déjà parlé, on s'attend pas à avoir des joueurs qui vont faire la LNH, alors que c'est ce qui explique un peu leur positionnement plus haut sur leur première ligne. Et puis en défense aussi, on a des joueurs qui, là, justement, sont des vrais prospects, là, entre guillemets, je dis ça comme ça. Mais tu sais, justement, des joueurs qui ont vraiment des aspirations de faire la LNH puis qui pourraient le faire. Notamment, on a Mougli qui est déjà repêché par Washington en LNH, un défenseur shutdown qui joue en NL en ce moment puis qui performe bien. Tu sais, défensivement, il est solide, puis il amène un tout petit peu d'offense, même si c'est pas le plus gros côté de son jeu. On a Sensonnes, tu me corrigeras
Ouais,
si je dis pas de bien. Mais encore une fois,
Sensonnens.
un peu le même type de joueur qui, tu sais, est un vrai prospect LNH qu'on regarde pour vrai puis qui va amener beaucoup de justement maturité puis de solidité à cette équipe-là. Puis on souligne beaucoup les espoirs LHMQ, mais je pense qu'en ce moment le joueur le plus intéressant LHMQ ou juste espoir en général chez la Suisse, ça va vraiment être Lars Steiner. Lars Steiner, pourquoi? C'est parce que c'est un joueur justement qui avait développé, qui a grandi justement dans le système suisse puis qui vient de faire le switch en LHMQ, fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qu'il connaissait. Puis finalement, cette année, il explose. Je pense que même si c'était son année de repêchage, cette année, il sortirait haut. Mais lui, c'est l'année prochaine. Donc déjà, on parle d'un joueur qui est extrêmement productif, qui joue avec les plus grosses lignes à Rouen. Donc on le voit jouer avec Véro, avec Zonon. C'est vraiment les meilleurs joueurs de Rouen. À 17 ans, qui joue déjà avec eux, puis qui performe, qui les soutient. Un joueur vraiment explosif, une super belle rapidité. C'est difficile de trouver vraiment des lacunes dans son jeu offensif. Donc, ça pourrait être vraiment la boule d'énergie, si on peut dire ça comme ça, que la Suisse a besoin. Le joueur qui est capable d'aller marquer des gros buts quand la Suisse a besoin, puis tu sais, qui peut permettre aux autres joueurs de jouer plus responsable, donc potentiellement voir un 1-2-2. Peut-être dans certains matchs contre des meilleures équipes, qui est un système assez safe, ou si tu mets Lars Steiner au 1, ben, tu as quand même des chances d'aller récolter quelques buts. C'est vraiment un joueur qui peut couvrir beaucoup de glace, qui peut finir, puis il peut bâtir des jeux pour ses autres équipes. Donc j'ai vraiment hâte de le voir parce qu'il a été un des joueurs les plus le fun à regarder en LHMQ cette saison.
Et aussi un aspect qu'on peut pas prédire parce que les gardiens de but, des fois,
Ouais.
on les connaît pas tous, donc c'est difficile de dire ça va être lui le starter, mais juste c'est à noter que d'un, il y a Ewan Huel, le fils de Cristobal, mais il y a aussi Christian Kersh, qui lui est un choix de San José. Donc, est-ce que ça va être lui le starter? Sincèrement, je pense même que la Suisse n'ont rien divulgué encore. De ce que j'avais vu, il n'y avait pas rien de nouvelles sur leurs pratiques et autres pour vraiment s'assurer c'est qui le starter. Mais un gardien repêché dans la Ligue nationale, ça peut toujours te mettre juste un edge ou un bon gardien, ça peut juste te mettre le edge sur tes compétiteurs. Puis, on va passer directement à l'équipe, à la sixième équipe qui, selon moi, est vraiment proche de la Suisse. Ça pourrait être intéressant dans le tournoi, justement, de voir. Ils vont peut-être se battre pour justement cette troisième place dans le groupe. Et c'est la Slovaquie. La Slovaquie ont connu des excellentes années dans les dernières, des excellentes dans le sens qu'ils ont eu vraiment des belles cohortes. On peut penser à Dvorsky, Slavkovski, Meschar, Nemec. C'était vraiment des équipes qui avaient du talent de pointe, là. Cette année, bon, c'est peut-être pas ça complètement, mais ça peut toujours être intéressant parce que c'est une nation de plus en plus reconnue pour le hockey. Et on peut juste penser à Mikhail Pradel, qui est le gardien de but au repêchage 2025. Je connais très peu dans les gardiens, mais je sais que je l'ai entendu dans des discussions, puis je l'ai vu dans des listes à quelques endroits. Mais il y a Samuel Urban qui, lui, c'est un vétéran, donc ça devrait être. Ça devrait être safe de ce côté-là. Sinon, vraiment, je pense que le joueur qui va devoir step up, c'est Maxime Sterbak en défense. C'est lui qui va devoir justement être le pilier à la défense, offensivement et défensivement, même si c'est peut-être pas toujours son rôle. Mais je pense que il joue en NCAA, 6 pieds 2. En tout cas, moi, je pense que ça doit être le meneur, ça doit être ton leader. L'année passée, en 5 matchs, il avait fait 7 points. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais c'est un tournoi de 19 ans. Hein. Donc, un gars de 19 ans comme Maxime Sterbak va devoir step up pour que son équipe se rende le plus loin possible. C'est sûr, il y aura Pekka, choix de Saint-Louis. Et il y a aussi deux joueurs éligibles au repêchage qui sont quand même très intéressants. Donc, tu as Luka Radivojevic dans la. Ben lui, il joue aux États-Unis. En fait, il est né aux États-Unis, mais il a la nationalité slovaque. Et tu en as un autre, Tomáš Podbezal, qui, lui, devrait être un joueur qui va monter dans les listes. De plus en plus, c'est un joueur hargneux, c'est un joueur qui dérange, qui est toujours dans tes patins, je devrais dire. Donc, c'est ça. Slovaquie, ça a toujours été un petit favori au World Junior pour moi. Je me rappelle, c'était en 2020, je pense. Ils avaient Slavkovský qui était éligible pas avant 2 ans, donc je trouvais ça excitant de les regarder. Ils avaient Meschar, ils avaient des joueurs excitants. Ils avaient Kromiak aussi, le prospect de LA. Donc, ça a toujours été une équipe favorite pour moi. Cette année, je pense pas que c'est vraiment une équipe qui devrait aller loin, mais je les mets au-dessus de la Suisse.
Ouais, puis comme tu dis, écoutez, je sais, on sort un peu du territoire des équipes en dessous où on n'a pas beaucoup de joueurs à regarder pour le repêchage cette année. C'est qu'au contraire, justement, la Slovaquie, c'est difficile de regarder leurs matchs. C'est quand on est dans notre position ici, de regarder les matchs des jeunes là-bas. Bon, même si Radivojevic évolue déjà aux États-Unis, donc lui, on ne le compte pas là-dedans. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec des équipes comme ça au World Junior, c'est que c'est pour, en tout cas pour moi personnellement, puis je pense pour toi aussi, la
Ouais, moi
première fois
aussi.
qu'on voit certains de ces jeunes-là. Donc, tu sais, la Slovaquie, ce qui est intéressant cette année, c'est que dans leur jeune prospect, certes, c'est beaucoup à l'attaque, mais on a un peu une variété de joueurs. Donc, tu sais, je pense à c'est Jan Chovan que j'ai hâte de voir, un attaquant de 6 pieds 3. Donc, tu sais, justement, ça vient vraiment compléter Radivojevic qui, lui, est plus sur les skills. Puis, c'est des joueurs que, eux, justement, s'ils impressionnent beaucoup au tournoi, on pourrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en entendre parler pour la deuxième moitié de la saison. Puis, au contraire de Carlos Endel, qui était avec l'Allemagne, je pense pas que eux, c'est quelque chose à prouver. Je pense juste qu'ils ont besoin de montrer une continuité de leur bon début de saison. Donc, c'est des joueurs que dans leur ligue, ils ont vraiment montré ce qu'ils pouvaient amener. Radusevic, on n'arrête pas de parler de ses skills depuis le début de la saison. Moi, je lis pas mal sur à quel point, justement, c'est un joueur en attaque qui est très skillful. Fait que, tu sais, s'il peut arriver au World Junior puis montrer ça contre des joueurs un petit peu plus vieux que lui, contre des grosses équipes, encore une fois, tu sais, on en parle. Quand il va jouer contre les grosses équipes, est-ce que ce talent-là va se démarquer encore? Puis si oui, ben là, justement, ça va être un joueur à côté duquel mettre une grosse mire pour le repêchage 2025. Donc, encore une fois, des joueurs qui, grâce à ce tournoi-là, s'ils se démarquent, pourraient vraiment monter. Puis, comme j'ai une variété de talents. Donc, on n'a pas trois petits joueurs offensifs. On a justement des joueurs un peu plus hargneux, un joueur plus grand dans Chovan, puis dans Radusevic, un joueur un peu plus petit, mais qui est supposé amener rapidité et skills. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Oui, puis c'est ça, je pense, Radivojević, en plus, il y a des choses à se prouver. C'est un joueur qui était quand même dans les listes avant que la saison commence. Il y a toujours du monde qui vont faire des listes en juin, juillet. Et c'est un nom qu'on entendait même l'année passée, là, que c'était comme, OK, lui, c'est un défenseur qui pourrait être big pour la Slovaquie. Et là, depuis le début de la saison, c'est un peu décevant. Il descend dans les listes. Il est toujours classé première ou deuxième ronde, mais c'est quand même intéressant de voir parce que Pobeljal, lui, c'est l'inverse. Lui, il monte. On est en train de le découvrir. Donc, le tournoi, c'est, oui, comme j'ai dit, c'est un tournoi de 19 ans, mais qu'est-ce qui est intéressant souvent, c'est de regarder les joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage pour voir comment ils se font sur cette grande scène-là. Donc, pour la suite, on n'a pas vraiment d'équipe précise. Je pense qu'on a deux tiers, deux tiers. Puis le premier de ce tier-là, ben, c'est entre la Finlande et la Tchéquie. On est hésitant entre les deux de laquelle va être capable de prendre le dessus sur l'autre. Personnellement, j'ai un petit faible pour la Finlande. Je pense qu'ils sont plus complets. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'on commencera par la Tchéquie. Donc, la Tchéquie, c'est ça. Une équipe avec Hrabal dans les buts. Lui, il a déjà joué l'année passée comme starter pour la Tchéquie. Adam Jiříšek, qui a été blessé la majorité de son année de repêchage, qui a pareil été repêché 16e par les Blues. Et qui, là, c'est ça, comme tu disais, il n'a pas joué depuis novembre. Donc, est-ce que c'est un point d'interrogation? Moi, de ce que j'avais vu, il était assuré de jouer. On verra. Mais sinon, d'autres joueurs à regarder en attaque, tu as Édouard Chalet puis Adam Dziako, et tu as aussi Jakub Dvorak à la défense.
Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, la Tchéquie, c'est encore une fois, c'est une équipe qui est vraiment qui va vraiment dépendre un peu de leur c'est justement à quel point est-ce que c'est complet. Donc, on n'a pas nécessairement de joueurs stars qui pourraient voler la vedette, mais on a quand même une grande profondeur à chaque position. Donc, tu sais, quand on parle justement en attaque, tu parlais d'Édouard Salé. Édouard Salé a vraiment bien commencé en AHL. Quand on parle en défense, encore une fois, on n'a pas la star défensive qui peut voler le show, mais Adam Jiříček, quand il est en santé puis en forme, c'est un défenseur assez solide qui peut t'amener un peu de l'offense et de la défense. Un peu ce qu'on voyait aussi dans son frère quand il était plus jeune, même si Adam a potentiellement un plus gros potentiel two-way, alors que son frère est plus axé sur l'offense. Et puis justement, avec des Jakub Dvorak aussi, des joueurs qui peuvent un petit peu être plus shutdown. Puis je voulais juste dire aussi, justement, rectifier mon erreur. Si vous avez écouté le segment justement sur la Slovaquie, c'est ça, j'ai parlé trop vite. Radosevic, je pense que j'ai dit que c'était un attaquant. Donc, juste corriger cette erreur-là. Après, tu me l'as dit. Puis, je pense que justement, je l'avais mal dit. Donc, oui, pardonnez-moi cette erreur-là. Mais oui, c'est ça, la Tchéquie, une équipe assez complète. Puis, tu sais, justement, quand on parle de la Tchéquie aussi, il faut qu'on parle de leur gardien de but, Hrabal, que ça fait une couple quelques années, je pense, l'année dernière, qui était à World Junior, qui a mis des bonnes performances. Donc, ce qui peut donner un énorme boost à une équipe qui n'a pas nécessairement justement ce star power comme la Suède, les Canada, les États-Unis. C'est vraiment un mur dans les buts. C'est ça qui peut créer beaucoup d'upsets. Donc, un joueur justement qui peut venir, puis qu'une soirée où tu as besoin de lui, qui peut te mettre 40 arrêts. Puis, je pense que la Tchéquie dans Hrabal, à ce niveau-là, ils ont ça. Puis, tu sais, Hrabal, que ce soit lui, c'est dans la NCAA, il me semble qu'il évolue.
Avec Youmass.
C'est ça, 9-17 de save percentage cette année dans une ligue avec des joueurs qui sont parfois plus vieux qu'au World Junior. Je pense qu'on peut s'attendre à une performance assez solide de lui. Puis justement, une continuité de l'année dernière. C'est pas comme si on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait. On s'attend à ce qu'il refasse quelque chose qu'il a déjà montré qu'il pouvait faire l'année dernière et qu'il continue de faire dans ses performances de club à l'université cette année.
Ouais, puis tu sais, tu parles de NCA qui est un très bon niveau de jeu, mais il y a aussi justement Jakub Dvorak qui joue en AHL avec le Règne d'Ontario, puis t'as Édouard Chalet qui joue avec les Firebirds de Coachella, Firebirds de Coachella Valley, puis Chalet il a quand même 13 points en 22 matchs. Est-ce que ça veut dire que ça va se transposer? Je veux dire, on regarde l'année passée, Mathieu Poitras, il avait joué dans la Ligue nationale, il est arrivé au World Junior puis il était pas mal éteint. Donc est-ce que ça veut dire que ça va se résulter en
Ben,
une production incroyable? Peut-être pas, mais c'est déjà ça à dire.
si je peux quand même noter, tu sais, sur Édouard Salé, c'est qu'il y a quelque chose que justement on parle beaucoup dans les jeunes prospects, puis que j'avais parlé dans l'épisode avec Adi, c'est que c'est un joueur qui a l'avantage d'être quand même assez grand. Donc quand il arrive, écoute, c'est pas quelque chose sur lequel il va pouvoir compter pour le reste de sa carrière. Quand tu arrives en LNH, t'as beau être 6 pieds 2, 6 pieds 3, faut que tu saches comment utiliser ta taille. Mais quand tu arrives à un tournoi comme le World Junior, si t'as la taille puis un bon physique, puis tu es habitué justement à jouer contre des joueurs AHL qui, eux, sont plus robustes, ben, je pense que tu peux quand même utiliser ça à ton avantage. Puis tu sais, il y a des joueurs dans ce tournoi-là, surtout dans les plus petites équipes, qui vont pas être habitués à jouer contre un joueur
Non.
dominant offensif, puis gros comme ça. C'est quelque chose qui est un peu plus rare pour ces joueurs-là, donc qui va être un peu plus difficile à défendre pour les autres équipes. Donc ça me surprendrait pas de voir une bonne production de Edward
Ouais.
Chalet au World Junior, surtout que justement, c'est un joueur, c'est sa dernière année où il peut le faire, donc c'est vraiment son time to shine, là. Il va tout donner pour gagner.
Puis il est bien entouré aussi dans le sens que il y a Peter Sekera qui pourrait être son centre. Il y a assez de joueurs pour que le premier ou deuxième trio de la Tchéquie soit rempli de gars avec du talent. Donc, il va pas se retrouver tout seul sur la glace, comme mettons Marco Rossi l'était
Ouais.
quand il jouait pour l'Autriche. Puis aussi, Chalet, c'est ça, tu dis c'est sa dernière édition, mais c'est sa troisième aussi. Donc,
Ouais.
tu sais, il en a là, du vécu, là. Il connaît, il va pas être impressionné par rien. Puis la Tchéquie, ben c'est ça. Même si malgré le fait qu'on dit qu'ils sont peut-être égalité avec Finlande pour la quatrième et cinquième équipe, la Tchéquie se ramasserait quand même, selon notre classement, les deuxièmes de leur groupe. Donc, ça leur ramènerait à jouer contre le troisième du groupe A. Donc, est-ce que ça peut les propulser en demi-finale, en finale? Tu sais, c'est intéressant de voir que la Tchéquie pourrait aller plus loin, vraiment, juste comme tu l'as dit. Si Rabal sort en quart de finale et bloque tout, ben, la Tchéquie passe en
Ouais.
demi-finale. Donc, c'est une équipe qui pourrait vraiment être comme un sleeper, là, comme on l'appelle. Puis Chalet, je
Ouais.
pense qu'il fait grandement partie de ça. Donc, vas-y, Finlande, qui serait techniquement notre quatrième équipe, là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs à parler là-dedans.
Ouais, ben c'est ça. Finlande, c'est qu'il y a beaucoup de noms qui sont déjà repêchés. On parle des Sebastian Aho, des Kostas Selenius, des Keskinen. Donc, t'sais, là, j'en ai dit trois, mais il y en a pas mal plus dans l'équipe. Puis, je dirais que leur point fort, c'est un peu la même chose que la Tchéquie. D'où est-ce que on a dit que c'était deux équipes qui étaient potentiellement interchangeables. Mais je pense qu'il est ce qui les différencie vraiment, c'est la qualité de ces joueurs-là. C'est vraiment la Tchéquie va avoir une équipe assez complète, mais ils vont beaucoup dépendre de justement Edouard Chalet, où c'est sa troisième année. Alors que la Finlande vont beaucoup dépendre de Kosta Hellenius, qui est déjà passé par là puis qui va être sur la première ligne. Mais je trouve que le support à ce top joueur-là est meilleur avec à droite Emil Heming, qui est déjà passé par là aussi. Et puis que Emil Heming n'a pas été choisi le plus haut l'année dernière parce que c'est pas le joueur le plus complet. Mais quand tu le mets sur une ligne où tout ce qu'il y a à faire, c'est compléter, puis justement utiliser ses atouts qui sont très solide comme son tir, ben c'est vraiment le joueur qui est mis dans une position idéale. Je pense que Emil Heming a bien utilisé, on l'a vu l'année dernière, ça marche très bien. Puis c'est pas une équipe aussi où il y a des énormes lacunes. Donc dans le sens quand on regarde les joueurs qui sont déjà repêchés, c'est pas comme si on manquait de taille, admettons. Tu sais, leur première équipe, leur première ligne, oui, t'as Hellenius qui est un petit peu plus petit, mais Heming a de la taille. Puis l'autre bord, t'as Alunen qui peut amener justement ce jeu physique-là. Donc c'est une équipe comme la Tchéquie, avec pas mal de joueurs repêchés, plus que la Tchéquie encore, puis qui en plus, ces joueurs-là viennent vraiment bien se compléter, je trouve. Donc, on va en parler avec les équipes plus hautes aussi, là, mais tu sais, là, ce qui est difficile à prédire avec le World Junior, c'est à quel point est-ce que ces joueurs-là vont bien cliquer ensemble. Sauf que la Finlande, ces joueurs-là ont déjà joué ensemble. Il y en a beaucoup qui étaient là au tournoi l'année dernière. Donc, je pense que ça va être un peu une continuité de ce qu'on a vu l'année dernière. Puis, c'est vraiment une équipe qui vont pouvoir dépendre puis donner beaucoup de minutes à leur première ligne où ces trois top joueurs. Puis tes trois top joueurs qui, justement, ce qu'on aime chez Hellenius, c'est qu'il est complet partout. C'est pas un joueur qui peut juste jouer un certain style de jeu. Puis c'est des joueurs qui peuvent jouer aussi Heming, Hellenius. C'est des joueurs qui peuvent jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes. Puis, tu sais, j'ai dit aussi en défense, il y avait des joueurs repêchés. On a des Kiehl-Yarvi qui peut amener ce petit côté offensif-là. On a des Sébastien, j'ai dit Aho, Sébastien Soigny, pardon. Vous récupérez mon erreur, mais justement, il y a des joueurs qui, un peu comme les mêmes points à l'attaque, peuvent amener différents styles de défense. On a des défenseurs plus offensifs, on a des défenseurs plus défensifs. Donc, une équipe vraiment complète avec des joueurs justement qui ont de l'expérience à des camps LNH.
On a le style du draft, Aaron Kiviharju.
Hein? Selon lui.
Donc, selon lui, donc c'est le meilleur pour juger ça.
Ouais.
Puis juste un truc que j'ai noté là, qui est intéressant, puis que c'est vraiment après, encore une fois, c'est les goalers. Donc, on ne sait pas qui va commencer.
Ouais.
Mais quand on regarde juste les stats, parce que là, je vais être bien franc, j'ai pas analysé des matchs de ces goalers-là dans la Liga. Il y a Noah Vallée qui lui était un goaler l'année passée avec la Finlande. Il y a Kim Saarinen qui lui est un joueur qui a été repêché par Seattle. Mais ces deux gars-là, ne vont pas très bien en ce moment dans la Liga. Le troisième gardien, non repêché, il y a 18 ans, c'était en 2006, donc il était éligible au repêchage de l'année passée, Petteri Rimpinen. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est 6 pieds, donc on ne se demande pas pourquoi il n'a pas été repêché. Les gardiens en bas de 6 pieds 2, ils sont à peine regardés. Mais lui, avec son équipe dans la Liga, il a 9-16 de save percentage, 11 victoires, 5 défaites, 7 en prolongation. Donc, c'est juste un truc que je lance de même. Est-ce que ça va être une surprise et ça va être Rimpinen qui va prendre les devants puis qui va être le gardien de confiance? On verra bien, mais c'est intéressant parce que c'est une des équipes où est-ce qu'il n'y a pas vraiment un gardien que je trouve qui est comme, OK, mettons Hrabal, on le sait que c'est lui.
Ouais.
Il y a des goalers de même, tu le sais que c'est eux qui commencent. Mais pour la Finlande, c'est intéressant. Puis justement, il y a aussi des gars, je pense, qui ont beaucoup à prouver. Je veux dire, mettons, Rasmus Kumpulainen, le choix de deuxième tour en 2023 de Minnesota, 6 pieds 4, qui était vraiment, quand on dit là, en montée, là, sa valeur montait depuis son repêchage. Et là, cette année, il descend. Son stock, il descend. Sa valeur descend. On dirait qu'il a perdu sa touche. Mais il est 6 pieds 4. Donc, comme tu dis, des fois, contre des gars un peu plus frêles, il va être capable de s'en sortir. Puis c'est sûr que moi, j'ai hâte de voir Hellenius parce qu'en AHL, Hellenius est quasiment le meilleur joueur des Americans. Déjà à 18 ans, ben 19 ans, là, je pense. Mais non, même pas, il y a 18 ans. Mais c'est Hellenius, c'est vraiment un joueur que moi, j'aimais énormément l'année passée. On s'en parlait souvent, le Renault, mais tu sais, c'est moi, des gars comme ça, là, hargneux, qui ont un échec avant, qu'ils ont ce jeu complémentaire qui vient les rendre des joueurs agaçants sur la glace. Puis il fait la même chose en HL et ça
Ouais,
fonctionne en
c'est
HL.
le type de joueur que justement. Il est tellement complet que tu sais que ça ne sera pas ton premier centre ou bien sur ta première ligne, le premier allié, whatever, mais il est tellement complet que tu es obligé de le considérer l'année dernière, on était obligé de le considérer dans le top 10 du repêchage parce que c'est tellement un sure shot, il y a tellement peu de failles dans son jeu que tu es obligé de le prendre. Tu sais, c'est pas comme si tu es un joueur de potentiel top 6, c'est un joueur que depuis qu'on en parle, on le sait qu'il va être dans le middle six d'une équipe, puis dans le middle six d'une équipe gagnante, pas juste dans le middle six d'une équipe de bottom league là, comme les Canadiens cette année. Ce serait vraiment c'est vraiment un joueur complémentaire idéal, tellement idéal que justement, on était obligé de le considérer haut. Puis finalement, il est sorti relativement haut, peut-être pas top 10, mais tu sais, juste après. Puis déjà, là, quand on regarde sa performance en AHL, on parle de potentiellement, peut-être, tu pas un gros steal, ça sera pas le steal du draft. Je pense qu'on regarde le point puis le total à la fin, mais quand même un joueur qui a été bang for your buck, si on dit ça comme ça, de la très bonne valeur pour le choix où il a été pris.
Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'aime. Je trouve qu'il a tout pour ça dans la Ligue nationale. Et si on fait juste un peu plus parler de lui, là, quand on regarde les prospects de Buffalo, quand on regarde leur pipeline, ils ont pas vraiment de joueurs avec le talent et le caractère de Hellenius. Ce qui était peut-être pourquoi ils ont échangé un Savoie, parce qu'ils
Ouais.
avaient des gars comme Isaac Rosen. Tu sais, ils avaient des gars qui pouvaient se ressembler. Mais Hellenius est comme un peu à part. Il est comme un peu tout
Ouais.
seul dans sa catégorie. Et donc, c'est pour ça que je me dis, ce gars-là s'en va pas de Buffalo à moins d'une grande erreur ou d'un grand
Ouais.
trade, là. Et il va s'amasser dans la Ligue nationale. Et comme je l'ai dit, en HL, ça fonctionne toujours la manière qu'il joue. Parce que l'année passée, en Liga, ça fonctionnait. Ça continue avec les hommes en HL. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec les ados. Au World Junior.
Puis
Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que la Finlande est intéressante.
je pense que ça fait un ultra bon lien avec l'autre équipe d'après, qui, tu sais, on va expliquer le contexte un peu, mais pourquoi est-ce que ça fait un super bon lien? Parce qu'il y a un de ses teammates, justement, à Rochester avec les Americans, qui joue pour l'équipe de Suède, que nous, on a mis numéro 3, qui est Anton Wahlberg. Puis, tu sais, pour encore plus mettre du crédit à Hellenius, Anton Wahlberg, on s'attend à un défenseur, excuse-moi, à un attaquant qui est un peu plus solide du côté défensif, mais que le côté offensif va prendre un petit peu plus de travail avec les pros. Puis, tu sais, justement, c'est ça qui est en train de se passer. Anton Wahlberg a 9 points. Il est encore jeune, il a 19 ans. Donc, tu sais, ça va venir. C'est pas, mais c'est pour juste montrer à quel point est-ce que ce que Hellenius est en train de faire en AHL, c'est tellement impressionnant. Puis, pourquoi est-ce que Hellenius, justement, quand on parle de joueur de middle six, tu peux pas avoir plus complet que ça? Parce que Wahlberg, lui, justement, c'est l'autre côté du spectrum. C'est un joueur de potentiellement Middlesex si tout va bien. Alors que Costa Hellenius, c'est pour ça que je dis que c'est un sure shot. Regardez à quel point est-ce que ça clique tout de suite. Puis il n'y a aucune raison, comme tu dis, que ça ne clique pas au World Junior. Mais bon, grâce à cette introduction, vous l'aurez deviné, l'équipe numéro 3, c'est la Suède. Et puis là, je voulais, tu sais, avant qu'on fasse un picture complet de l'équipe, qu'on parle un peu des joueurs intéressants, je voulais quand même justement mentionner que, encore un peu comme, je pense que c'était la Finlande et la Tchéquie, donc la 4 et 5, la 3 et 2, c'est la Suède et les États-Unis, puis c'est des deux équipes qui sont ultra interchangeables. Puis ce qui est vraiment intéressant dans cette situation-là, c'est qu'il y en a, les deux ont vraiment un point très fort, puis un point un peu plus qui va être un peu plus une lacune, un questionnement. Donc pour la Suède, admettons, si on regarde leur défense avec Alex Sandin Pelikka qui est en train de trouver son jeu défensif en SHL, mais qui, le côté offensif, est jamais parti. Ça va être une star offensive en LNH, je pense. T'sais, le côté offensif, ça n'a jamais été un problème pour Alex Sandin Pelikka. Puis plus les années avancent, plus son côté défensif suit un peu cette trajectoire-là aussi. Tom Willander, Theo Laineen, aussi. Bergvist, c'est un moins gros nom, mais bon, c'est un prospect du Canadien, donc je le dis quand même. Mais bref, tout ça pour dire que la Suède ont une défense qui va être extrêmement difficile à passer, qui est supportée par des joueurs justement comme des Edström, comme des Wahlberg que j'ai nommés, qui sont des attaquants, mais qui supportent très, très, très bien la défense. Et qui, justement, quand on parle d'un Wahlberg, c'est pas son premier World Junior, c'est pas un joueur qui manque d'expérience, qui joue contre des pros déjà. Donc défensivement, ça va être très, très difficile de marquer des buts contre la Suède. Et puis quand on parle des États-Unis, pourquoi est-ce que c'est autant difficile de classer ces deux équipes-là? C'est parce que les États-Unis, c'est au niveau de l'attaque. Tu sais, c'est comme l'opposé de la Suède. Eux, leur lacune va plus être défensive. On a des Yves Bouillon, des Cole Hutson en défense. Donc, tu sais, des défenseurs qui vont amener beaucoup d'offense, mais qui vont être un petit peu plus potentiellement faciles à passer. Mais quand on regarde l'attaque des États-Unis, c'est incroyable. On a des Trevor Colony, des Yzerman, des James Higgins, Ryan Leonard, Oliver Moore, tellement Gabe Perreault, tellement de gros noms offensifs. Là, le bémol pour les États-Unis, puis on regardera ça plus en détail quand on sera rendu au numéro 2, mais c'est justement, ça va être la chemistry d'équipe. Et je pense que ça va être l'avantage que la Suède va avoir dessus. Mais bon, une équipe des États-Unis qui clique, c'est sûr qu'ils vont être au-dessus de la Suède. Mais c'est pour ça que c'est autant difficile de les placer en 2 et 3. C'est parce que les deux équipes ont un aspect de leur jeu qui est autant solide. Puis la Suède, je pense que ça risque d'être l'équipe qui est la plus, contre qui c'est la plus difficile de marquer pour le tournoi cette année. Mais à cause du potentiel offensif des deux équipes avant, on les a mis numéro 3. Mais j'arrête pas de le dire, là, mais c'est interchangeable. La Suède qui finit numéro 2 ou bien même potentiellement numéro 1, ce serait pas un shocker, admettons, là. Ça pourrait vraiment, c'est réaliste comme scénario.
Ouais, c'est ça. Les deux sont pas dans le même groupe. Moi, je pense que Suède vont être les grands gagnants de leur groupe. Ça m'étonnerait que la Suède perde un match. Je pense que ça serait une déception si la Suède perdait un point de leurs 4 matchs. Dans le sens que même s'ils se rendent en prolongation, je pense que c'est une déception pour l'équipe. Je pense que le talent qu'ils ont, la profondeur, puis comme tu l'as dit, Willander, Sandin, Pelikka, Lindstein, là, ces gars-là, ils pourraient être sur la glace. Au moins un des trois pourrait être sur la glace en tout temps. Pour 45 minutes du match. Donc, je vois pas pourquoi la Suède se rendrait pas premier en gagnant leurs 4 matchs et ensuite aller quasiment peut-être en finale. Tu sais, ça va être la demi, je pense, va être très, très intéressant pour la Suède. Puis, c'est sûr que c'est une équipe que ça fait, je pense, que ça fait quand même un petit. Tu sais, pas l'année passée, mais ils ont perdu. Oui, l'année passée en finale. Avant, c'était. Ils ont gagné la bronze en 2022, mais sinon, ça fait longtemps là qu'ils ont été champions là. C'est 2012. Ils ont eu l'argent la dernière fois en 2018. Donc c'est un pays qui a le talent à chaque année pour se rendre, mais qui se rendent pas. Et t'as parlé de Bergvist. Puis moi, je veux juste faire une petite parenthèse là. C'est vraiment étonnant parce que le Canadien, on dit on est en rebuild et tout, mais on a seulement un joueur de tout le tournoi, de toutes les équipes, et c'est Rasmus Bergvist, un choix de 7e tour de cette année, défenseur de 6 pieds 2. Et oui, il aurait pu avoir d'autres gars là. On peut penser à Michael Hage, on peut penser à Atos Koivu, qui aurait pu être invité. Ils ne l'ont pas été, donc ça sera ça pour cette année. Mais Bergvist, ça devrait être le 6e ou 7e défenseur, donc faut pas s'attendre à le voir. À moins vraiment qu'il sorte du lot puis qu'il commence à prendre un rôle qu'on s'attendait pas. Il y a toujours des surprises de même. Mais moi, j'ai hâte de le voir parce que je l'ai jamais vraiment vu. De ce que je comprends, c'est un défenseur qui patine bien, qui a un bon sens du jeu, mais c'est pas plus que ça, là. C'est pas un joueur sur le radar de personne. Et il y a Victor Eklund, le frère de William, qui est éligible au draft 2025, qui pourrait être un choix de top 10. Lui, c'est un gars qui joue très bien en ce moment et qui monte dans les rankings. Donc, j'ai hâte de le voir au World Junior. C'est pas mal juste ça que je pourrais dire. Puis pour les gardiens, encore une fois, c'est trois gars qui jouent, qui ont 19 ans, qui jouent. Je pense qu'il y en a deux là-dedans qui étaient dans l'équipe l'année passée. Il y en a un, par exemple, qui est 6 pieds 6, Marcus Gidloff, un choix de Islanders, qui a une très bonne saison en SHL, 9-17 et 5 victoires, 3 défaites. Puis la SHL, c'est préféré à la Liga, c'est préféré à la N, peut-être pas la NL. La NL, c'est quand même égal, là, mais la Suède ont une grande partie de leurs joueurs qui jouent en SHL déjà. Et même, ils ont Ungerserum et Wahlberg qui jouent en NHL. Donc, juste pour ça, c'est de la maturité. C'est des gars qui arrivent avec comment dire, tu sais, une expérience, un bagage de plus que beaucoup. Tu sais, même quand même que les Américains et les Canadiens, là, dans le sens que les Américains et les Canadiens, la plupart sont dans le junior. Donc, ils n'ont pas l'expérience de jouer contre des hommes. Donc, la Suède peut avoir le edge là. Mais, comme tu l'as dit, selon nous, les États-Unis, c'est la deuxième équipe. Trey Augustine, selon moi, bon, ça a toujours été le petit chouchou. Du développement américain depuis tout le temps, là. Il a toujours été au-dessus de Fowler, et Fowler ne peut pas y être parce que c'est un late, donc il a déjà 20 ans.
Ouais, ben c'est ça. Écoute, je vais te laisser continuer avec les États-Unis, mais juste avant, je voulais quand même mentionner la décision justement de la Suède. Tu l'as mentionné un peu, mais tiens, en parlant de Victor Eklund, la Suède ont décidé d'aller chercher justement Victor Eklund pour leur équipe, mais pas Anton Frundell. Anton Frundell qui est un attaquant un peu plus grand que Eklund. Donc, c'est les deux joueurs qu'on n'arrête pas de voir interchanger au repêchage. Déjà, la décision peut être expliquée par le fait que Frundell est plus. Il est plus grand, il est plus conservateur. On pense qu'il y a ce upside offensif-là. On le voit de faire des super beaux jeux, vraiment bien placer des passes. Mais pour le moment, cette année, le côté offensif ne clique pas vraiment. Puis quand on regarde l'équipe de la Suède, justement, on parlait de Wahlberg tantôt, Stenberg. Wahlberg notamment, oui, ça marche bien avec les pros, 9 points en 20 quelques matchs, c'est correct. Mais ce n'est pas ton dynamo offensif. Donc si tu prends Frundell, tu as un jeune qui rentre un peu dans les mêmes problèmes que les autres attaquants ont potentiellement. Donc la Suède décide d'aller chercher Victor Eklund. Puis Victor Eklund, il est plus petit que son frère, mais tellement d'énergie, couvre tellement de glace. Moi, plus la saison avance, vu que c'est un prospect assez haut, d'habitude, les joueurs suédois, c'est pas les joueurs que je regarde le plus. Il y a des joueurs qui vont être éligibles au repêchage cette année que je vais même pas avoir regardé un match complet. Mais Eklund, dès que j'ai regardé la première fois que j'ai regardé un premier match de lui au complet, il m'a tellement attiré l'attention que je suis allé en regarder d'autres. Puis c'est un joueur qui amène tellement d'énergie, qui couvre tellement de glace, qui a une extrêmement belle vision. Donc, encore une fois, j'ai tellement hâte de le voir au tournoi. Puis je pense que ça pourrait être un joueur qui surprend par à quel point est-ce qu'il sort haut dû à sa versatilité, puis qui amène quelque chose. Tu sais, là en ce moment, il est vraiment dans une opportunité en or pour lui parce que oui. Comme n'importe quel autre joueur éligible au repêchage, c'est le moment de vraiment montrer ses skills. Mais en plus, il est dans une équipe suédoise qui va manquer cette petite touche offensive, qui va manquer ce joueur-là qui est capable d'aller leur marquer des gros buts. Donc, si Victor Eklund arrive, puis rentre là-dedans, fait la même chose qu'il fait justement en Suède en ce moment, dans sa ligue, écoutez, on peut parler de joueur là, que tu disais, c'est un joueur qui est potentiellement top 10. Bon, le top 5 est assez stack, mais tu sais, qui se rapprocherait énormément dans la liste du top 5. Là, tu sais, Victor Eklund, si le reste de la saison se passe comme le début de la saison, c'est pas un joueur que je serais choqué de voir 5, 6, 7e, tu sais, dans ces eaux-là. Fait que, écoute, tu avais commencé à parler de Trey Augustine puis les gardiens de but des États-Unis. Fait que je te laisse continuer sur les États-Unis, là, sur ta lancée.
Les États-Unis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils ont quatre joueurs qui sont pas repêchés dans la Ligue nationale. Il y a Sam Hillebrand, un des gardiens de but. Je pense pas qu'il va avoir énormément d'action ce tournoi-ci. Mais sinon, Blake Fiddler, Logan Hensler et James Higgins. Trois gars qui vont être repêchés cette année en 2025. Donc là, on vient de passer dans tu sais, Canada, États-Unis à chaque année, c'est ça, là. C'est rempli de joueurs repêchés. Et les joueurs qui sont pas repêchés, ben c'est des joueurs qui vont l'être la plupart du temps, là. Je pense que défensivement, entre Fiddler et Hensler, j'ai plus hâte de voir Hensler. Je pense qu'Hensler peut faire son cas pour être un top 10. Est-ce que ça va être le deuxième défenseur repêché? Pour l'instant, je pense que oui. Je l'avais bien aimé. Si je me rappelle bien, là, je veux pas dire de niaiserie, mais je l'avais bien aimé au Hreninka. Mais je pense, ça se peut que je me trompe, là, mais il me semble que je l'avais vu jouer au Hreninka. Ou peut-être que si je me mélange avec Fiddler. Mais j'avais bien aimé Hensler ou Fiddler. C'était un des deux, là. On dirait dans ma tête, je pense que c'est plus fiddler en le disant, mais ben, parce que c'est un gars qui joue en fait en WHL. Puis ça m'a surpris énormément que les États-Unis draftent un gars, ben, pas draft, mais prennent un gars qui a été, qui va
Ouais.
jouer au Canada. Tu sais, souvent le Canada va snobber les joueurs qui jouent à l'extérieur, puis l'inverse aussi là, pour les États-Unis. Mais donc, Fiddler, je pense, c'est juste que son ceiling n'est pas autant élevé que Hensler. Hensler joue déjà dans la NCAA avec Wisconsin. C'est un défenseur qui a l'air d'être quand même justement le défenseur mature là, qui est comme. Je sais pas pourquoi j'oublie là, mais tu sais, c'est comme le défenseur pilier, là, tu sais, qui, oui,
Ouais.
offensivement, mais c'est aussi défensivement. Puis sinon, ben, si on regarde la défensive des États-Unis, il y a tellement, tu sais, chaque nom pourrait passer dessus, là, mais moi, j'ai bien hâte de voir Cole Hutton. Est-ce qu'il va être capable de répliquer un peu ce que Lane Hutton avait fait? Ziv Bouillum, je veux dire, il continue sur une belle lancée. Mais je pense vraiment que c'est ça. J'aimerais vraiment ça qu'Hensler ait un gros rôle dans cette équipe-là parce que. Il y a beaucoup à prouver, en fait, parce qu'en ce moment, à part Schaefer, dans le top 10 du draft, il n'y a pas grand nombre de défenseurs, à part Hensler, puis peut-être Jackson Smith,
Ouais.
qui peuvent se retrouver là. Puis ben sinon, en attaque, c'est ça. James Higgins, j'ai hâte de le voir jouer contre oui, il joue en ce moment à NCAA, donc il joue contre des gars plus vieux, mais tu sais, là, peut-être un peu plus élite, là, des joueurs élites de l'autre côté. Iseman Conley, moi, c'est deux gars que j'ai hâte de voir parce que ça a toujours été un peu des souffres-douleurs dans le draft 2024, comme dire qu'ils étaient. Conley, c'était un mauvais coéquipier, puis Iseman, c'était juste un tireur de but. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que Ryan Leonard, c'est un joueur que j'aime bien. Avec Gabe Perreault, ça devrait être dominant. Leur top 6 va être incroyable. Et une affaire que je trouve qui est intéressante cette année avec les États-Unis, puis que souvent ça a manqué peut-être, c'est la profondeur offensive. On peut penser juste à un Teddy Stega, Danny Nelson, Oliver Moore, qui sont des gars qui, selon moi, peut-être Oliver Moore, c'est lui qui aura le plus d'opportunités sur le top 6, mais c'est des gars qui pourraient apporter du secondary scoring, tu sais, troisième, quatrième ligne qui amène du scoring. On
Ouais.
sait que Teddy Stega et Moore sont vraiment focusés là-dessus. Moore, il patine extrêmement vite. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien la profondeur. Je pense toutefois qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour remporter ce tournoi-là. Mais
Ben, je trouve qu'ils
Augustine
ont
pourrait les sauver.
absolument. Puis je trouve que c'est juste qu'ils ont trop de joueurs qui vont essayer de remplir le même rôle. Tu sais, c'est drôle parce que quand on parle de Ziv Bouillon, souvent l'année dernière, ce que j'entendais, ce qui faisait que les gens étaient autant hauts sur lui, c'est qu'il disait, hey, c'est un Lane Hutson, mais qui fait 6 pieds quelques. OK, fait que là, tu as Ziv Bouillon, tu as Cole Hutson, les deux. Tu peux pas avoir deux défenseurs qui sont autant axés sur l'offense que ça. En attaque, tu pourrais avoir le même problème potentiellement. Tu sais, Cole Iserman, un excellent scorer. Trevor Connolly, un excellent scorer, mais tu peux pas avoir juste des scorers dans ton équipe. Il faut des joueurs qui acceptent de prendre un rôle secondaire. Sauf que souvent, je trouvais que les États-Unis, tu sais, justement, l'année dernière, ils avaient décidé de pas inviter Iserman à cause de ce problème-là, justement. Donc, je pense que c'est une équipe que globalement, ceux qui font l'équipe, les coachs, ont quand même une bonne vision de ça. Puis, j'ai confiance que si ces joueurs-là sont invités, c'est que c'est des joueurs qui, justement, dans le camp d'entraînement, ont montré cette volonté-là, de se mettre dans des rôles potentiellement plus secondaires dans certaines situations, de pas essayer d'être le star de l'équipe. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que, tu sais, on parlait de problèmes de Trevor Connolly. J'ai hâte de voir si il va avoir les mêmes problèmes qu'au U18 l'année dernière. Tu sais, en finale, c'était complètement. Il a pris une décision complètement de merde là, à la fin du match, il faut le dire, qu'il a mis. Une décision qui prend zéro en considération l'équipe. Puis moi, je pense que ça va être une bonne opportunité pour lui, sur un stage plus gros, un tournoi encore plus important que le U18, de montrer que ça, c'est derrière lui, c'est l'ancien, que maintenant il a ses premiers pas en NCAA où ça se passe super bien, qu'il a fait son premier camp à LNH. On va voir un nouveau Trevor Connolly qui est capable d'être dominant offensif, mais qui est capable de ne pas oublier qu'il y a toute une équipe derrière lui, puis qu'il y a des matchs où ça ne va pas être Trevor Connolly, Trevor Connolly contre Trevor Connolly. Ça pourrait être des matchs où c'est James Higgins qui va aller mettre ses points-là. Ça va être des matchs où c'est Ryan Leonard. C'est des matchs où ça va être Cole Iserman. Puis, important aussi de mentionner que justement, tu sais, il y a des joueurs là-dedans qui, en NCAA, jouent ensemble. Je pense notamment, tu sais, à Ryan Leonard et James Higgins. En ce moment, NCAA, ça marche très, très bien. Donc, c'est des joueurs que si tu les mets sur une première ligne ensemble ou bien une deuxième ligne ensemble, on verra ce que ça donne avec les États-Unis. Il y a déjà cette chemistry-là. Puis, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu certains des highlights. Je sais que nous, des fois, on s'en envoie avec Jules, mais c'est des joueurs qui, on dirait que n'importe quel moment, du match, ils savent où est-ce que l'autre est sur la glace. Donc, ils ont vraiment une longueur d'avance sur la défense adverse quand ils entrent dans la zone. Ils font des jeux de passe que c'est rare que tu vois ça, même à un niveau comme la NCAA. C'est vraiment des joueurs qui voient le jeu avant les autres. Puis, c'est ce que beaucoup de personnes disaient, tu sais, avec James Higgins en NCAA. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, hey, surréagissez pas à son. Là, ça s'est amélioré, mais tu sais, au début de la saison, la production était un peu plus lente. Les gens disaient, hey, surréagissez pas à ça, c'est que des fois on dirait qu'il est trop en avance pour ses teammates. Puis là, on va le voir dans un setting où il y a beaucoup de joueurs qui lisent le jeu autant rapidement que James Higgins. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment le voir s'établir comme justement hey, un premier choix au repêchage à ce tournoi-là. Puis en défense, justement, j'ai soulevé le problème de il y a beaucoup de défenseurs qui vont devoir accepter, en fait, beaucoup de défenseurs, deux, qui vont devoir accepter que c'est le niveau offensif, l'offense est assez forte pour s'en occuper. Donc, ils vont devoir peut-être justement prendre des. J'ai hâte de voir notamment Bouillum là, dans un rôle peut-être un peu plus défensif parce que c'est ce qu'on veut voir de lui. Yves Bouillum, il veut être un top dans la LNH, oui, son côté offensif va être important, mais c'est un grand joueur. Il faut qu'il amène ce physique-là et ce côté un peu plus shutdown aussi, là, sans être le shutdown guy. Mais je trouve qu'il y a quand même une balance pas si mal entre l'offense et la défense dans leur défense. Ça fait une drôle de phrase, là. Mais tu sais, je pense notamment des plus petits noms comme AJ Emery et Adam Kleber, que, écoutez, 100% transparent, ce n'est pas les joueurs que j'ai le plus vu jouer l'année dernière, mais quand même, on m'envoie des clips, j'ai des collaborateurs. Tu sais, s'il y en a qui ont regardé nos vidéos sur le repêchage l'année dernière, j'avais la première ronde qui était venue, qui nous avait parlé de Adam Kleber. C'est des joueurs qui ne seront jamais la star d'une équipe, mais qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment récupérer en termes de défense pour les erreurs que potentiellement un Cole Hudson ou un Ziv Williams pourrait faire, ou bien pas nécessairement les erreurs, mais tu sais, le flair un peu plus offensif. Si tu mets un Ziv Williams ou un Cole Hudson avec un Kleber ou un Emery, ce gars-là va vraiment pouvoir lui rester plus safe, laisser l'espace au défenseur offensif qui a besoin pour créer cette offense, puis récupérer ça un peu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça marche, mais c'est une équipe que si tout marche, c'est le type d'équipe qui, justement, va pas faire des blanchissages, mais pourrait te battre 6-3, admettons, là.
Ouais, je suis d'accord. Mettons Bouillum, ça va être ça. C'est ce qui est intéressant et un peu mélangeant peut-être en ce moment, comme on est à un moment où est-ce que les lignes sont pas vraiment faites.
Ouais.
Donc c'est difficile de vraiment prédire où est-ce qu'ils vont être. T'sais, Higgins, il pourrait vraiment être premier centre comme il pourrait être troisième, quatrième. Je veux dire, l'année passée, 22 points en 7 matchs dans le U18. Higgins est vu comme le premier choix depuis quand même longtemps en 2025. Mais là, cette année, il y a vraiment des joueurs qui peuvent poussé pour être premier choix, dont un joueur du Canada qu'on va parler bientôt. Mais moi, je pense que c'est dans ce tournoi-là qu'il doit se prouver, Higgins, qu'il doit montrer qu'il y a la coche pour être le premier choix overall et que c'est une erreur de ne pas le prendre.
Mais
Parce
c'est
que
ça.
il joue bien avec Boston College, comme tu l'as dit, avec Ryan Leonard, Perreault, il y a des jeunes connexions. Son coup de patin est tellement fluide. Sa vision du jeu, est vraiment très excellente, là, on doit dire. Comme tu dis, moi, je trouve que des fois, du peu de matchs que je l'ai vu, là, je dois avouer, mais j'ai vu deux, trois matchs de lui avec Boston College. Et c'est juste, la plupart du temps, je trouve que c'est ses coéquipiers qui sont pas capables de finir les jeux. Je trouve que c'est lui qui va avoir vu le jeu ou qui va le créer, et que ça va juste pas finir, donc ça rentre pas dans le but, ou ses tirs sont, tu sais, il a pas encore vraiment retrouvé sa touche de marqueur. Mais des fois, ça prend une petite étincelle et ça repart. Puis, j'ai bien hâte de le voir parce que je pense qu'il pourrait être premier centre des États-Unis, là.
C'est ça qui est autant excitant avec un tournoi comme ça aussi. Je me suis, tu sais, d'habitude, en fait, pas d'habitude, mais il y a des années où le choix de numéro un est pas autant clair. Puis c'est ça, je trouve, qui rend le tournoi autant excitant aussi quand justement, tu as plusieurs joueurs qui sont un peu là, qui pourraient vraiment se démarquer puis prendre cette place-là. Puis là, cette année, en plus, je me souviens juste l'année où on avait Mishkov et Bedard, le tournoi de World Junior, c'est vraiment le tournoi où on a vu à quel point est-ce que Mitchkov était plus proche de Bedard que ce qu'on pensait. Puis là, finalement, à cause de plein de facteurs, Mitchkov tombe septième. Mais quand il arrive dans la LNH, effectivement, peut-être qu'il est moins loin que Bedard que ce qu'on pensait. Puis là, écoutez, il y a plein de facteurs. Je ne dis pas que Mitchkov va être meilleur que Bedard. Je pense que Bedard est mal entouré à Chicago. Un peu le même problème qu'on voit avec James Higgins en NCAA. Ses coéquipiers finissent pas. À la fin de la journée, Bedard, c'est un joueur de plus de 100 points autour duquel tu peux bâtir une franchise. Mais Mitchkov est moins loin que ce que pas mal de personnes pensaient. Puis la première fois où est-ce qu'on a vraiment pu voir ça sur la glace, C'est au World Junior. Moi, je me souviens, leur année, ça avait été le World Junior un peu n'importe quoi à cause de COVID, qui était, on ne savait pas si ça allait se passer ou non. Mais dans les matchs, ou même il a été coupé, c'est-tu le World Junior qui n'a pas été fini, celui-là?
Il y en a eu un qui était l'hiver, ça avait été fini à cause de la COVID, et
C'est
ensuite il y
ça.
avait eu celui de l'été.
Ouais, c'est ça. C'est celui de l'hiver, je pense, où justement on avait
Ouais.
vu un Mitchkov qui était autant compétitif que Bedard, qui amenait autant offensivement. Fait que, tu sais, cette année, bon, là, on va. Tu sais, vous avez deviné que la première équipe, c'est Canada, donc on va rentrer là-dedans. Mais il y a trois noms là-dedans que, tu sais, dépendamment, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des opinions différentes, mais ces trois noms-là, donc James Hagan, Matthew Schaefer, puis Porter Marton, c'est des gars qui sont numéro un sur certaines listes. Donc, c'est vraiment un
Ouais.
tournoi où on va voir à quel point est-ce que le calibre est différent en ces gars-là.
Ben, c'est ça. Passons au Canada.
Ouais.
Je veux dire, premièrement, je vais commencer au filet. Carson Bjarnason, Carter George, Jack Ivankovic. Ce que j'aime, c'est que c'est trois gardiens de trois drafts différents. Ivankovic, c'est cette année qui est repêché. Carter George, c'était l'année passée. Il a très bien fait au U18. Puis Bjarnason, ben, ça fait 2 ans qu'il roule sa bosse. Et là, je pense qu'il va avoir le rôle de starter. C'est Canada. Donc, on pourrait parler de chaque joueur encore une fois. Tu sais, on pourrait faire 20 minutes sur chaque joueur, là, si on voulait. Est-ce qu'on va parler des décisions étranges de Hockey Canada? Oui. Je pense que, comme à chaque année, il y a toujours des noms qui sont laissés de côté, puis des noms qui sont pris, que tu fais comme ah, OK, étonnant. Moi, mettons, je vais penser juste à Michael Missa, puis Beckett Seneca. Je veux dire, Michael Missa, c'est le meilleur pointeur et scoreur de la Ligue de l'Ontario, qui est techniquement, ben pas techniquement, mais qui est supposément la meilleure Ligue du Canada, et tu l'invites pas. Je trouve que c'est très étrange. Il n'est même pas invité au camp. Je trouve
Ouais.
que c'est très étrange. Beckett Seneca, il rentre, il va, il finalement est invité à cause d'une blessure d'un joueur, arrive au match contre le U Sports, domine et il est pas pris. Et moi, et là, je vais dire, moi, je l'aime, Cole Beaudoin. Je l'aime, c'est un gars que, même, on s'en parlait l'année passée, moi, je pense qu'il y a un plus gros plafond que certaines personnes voient en lui. Moi, je pense que c'est middle six et qu'il y a un cas pour être top six, mais. Je peux pas défendre Michael Missa ou Beckett Seneca derrière Cole Beaudoin. Je pense que c'est juste des points qui ont. En tout cas, là, je veux parler juste des joueurs pas invités là, avant de rentrer dans ceux qui ont été invités, mais je trouve ça très, très, très étrange. Tu sais, c'est juste. On parle de Zane Parekh aussi, là. Je veux dire, c'est des top joueurs du junior au Canada, puis ils sont pas invités.
Ouais, puis moi, ce que j'avais vu justement sur X quand je regardais ce que les gens disaient, c'est que là, en ce moment, tu as une stratégie, on dirait que le Canada arrive, puis ils disent, hey, on veut une troisième ligne qui est greedy, puis qui peut genre vraiment déranger la première ligne de l'autre équipe. Sauf que potentiellement, tu prends juste des noms non invités. Puis tu sais, même des joueurs que je suis moins fan, dont Andrew Christos, tu peux pas dénier la performance qu'il met dans sa ligue en ce moment. C'est des numéros historiques. Il y en a tellement là, de joueurs que c'est comme ça que tu mets ça sur une troisième ligne, jusqu'à des équipes contre, comme tu sais, la Finlande, ils vont dominer leur première ligne de cette équipe-là. Là. Tu sais, tu fais une ligne, Seneca, Missa et puis Christos ou bien un autre des noms, cette ligne-là va être meilleure que la première ligne de beaucoup, beaucoup des équipes de ce tournoi-là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est surprenant, c'est que oui, sure, tu veux de la grid sur ta 3-4e ligne parce que traditionnellement dans le hockey, c'est comme ça que tu builds une équipe. Mais si tu peux avoir une équipe où tu as trois premières lignes dans tes lignes, trois lignes qui ont le niveau pour être une première ligne sur une autre équipe, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Ça serait de la domination totale, puis c'est un peu un potentiel gaspillé à mon avis. Surtout quand tu as des joueurs, comme Jules, tu l'as dit, Beckett Seneca, quand il est arrivé au camp, il s'est prouvé les 2 dernières semaines où il a joué dans sa ligue, ou quand on ne pensait pas qu'il allait être au camp, il a prouvé, il a surperformé encore plus. Il a tout fait pour montrer si c'est un joueur qui avait envie d'être là. On regarde les interviews. Puis c'est même pas comme si c'était un problème. Dans le sens comme les États-Unis, ah, si Zane Parekh avait été américain, peut-être qu'ils l'invitent pas parce qu'ils ont déjà ce upside-là défense offensif en défense. Quand tu regardes les Canada, oui, sure, Oliver Bunk amène un petit peu d'offense. Molendijk, c'est un bon défenseur offensif. Schaefer peut amener cette offense. Mais ils n'ont pas de défenseur purement offensif. Donc, est-ce que ça a vraiment ruiné toute la stratégie de l'équipe d'en avoir un? Puis, c'est vraiment la qualité des joueurs qui sont laissés de côté. Tu sais, à la limite, si on avait des Seneca, des Riley Hyde qui étaient dans l'équipe, on pourrait
Riley Hyde, ouais,
comprendre.
ça j'allais dire.
Oui, tu sais, on
Riley Hyde,
pourrait.
TJ Ginla, Matthew Wood,
C'est
Green
ça.
Tree, T. Hage, je veux dire, Barlow, c'est Barlow, moi j'aurais pensé que Barlow était là parce que c'est un 19 ans et parce que Barlow est un joueur qui peut jouer sur un bottom six et
Mais
avoir ce rôle-là, cette responsabilité-là, fait que ça m'étonne énormément. Yakimchuk, moi je l'aime bien là, Yakimchuk. Il a 19 ans, c'est son année, sa dernière année pour jouer dans l'équipe Canada, il est pas invité.
ouais.
En tout cas, c'est
Moi, ce
vraiment c'est
qui est surprenant, c'est que à la limite, il y a beaucoup de ces joueurs-là que tu peux dire, OK, au moins, ils ont une bonne saison cette année. Peut-être que nous, on aurait fait un choix différent, mais il y a des choix dans l'équipe. En défense et en attaque, moi, il me faut un peu gratter ma tête, là, si on traduit l'expression en anglais.
Non, hein,
On pense
complètement.
à un Tanner Howe. Moi, l'année dernière, le Tanner Howe, je ne sais pas si dans les épisodes que j'ai fait plus long sur le repêchage, j'en ai parlé, mais c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est un excellent joueur de support. Certes, c'est pas un joueur pour qui je vais prôner d'aller le prendre dans le top 20, dans le top 10. Je sais que c'est pas le meilleur joueur, mais. Tu sais, fin de première ronde, début de deuxième ronde, moi, c'est un joueur que j'aimais bien, que je plaçais là. C'est un joueur que je vois qu'est-ce qu'il peut amener à une équipe. Qu'à Regina, j'arrêtais. Quand les gens le critiquaient, je disais oui, mais moi, je pense que son jeu se transfère bien du centre à l'aile, qu'on pourrait le voir partout, que c'est un très bon joueur de support. Mais quand on regarde les numéros qu'il a mis cette année, 7 points en 10 matchs avec Regina, 9 points en 6 matchs, c'est mieux depuis qu'il s'est fait transférer à Calgary. Mais quand on compare ça avec juste les numéros des deux dernières semaines de Seneca, quand on compare ça avec les numéros de Hyde cette saison ou l'année dernière, Crystal en WHL, il y a rien qui justifie d'aller prendre un joueur comme ça à la place d'un des joueurs qui a été laissé de côté. Fait que tu sais, au moins avec Cole Beaudoin, tu peux dire, ouais, il rentre pile dans ce que Team Canada voulait. Bon, je suis pas d'accord avec la décision, mais au moins il y a cet aspect-là. Mais Tanner Howe, je comprends aucunement. Puis en défense, il y en a d'autres. Bon, il y a des défenseurs que je connais un peu moins, fait que je peux moins faire autant un argument que Tanner Howe. Mais tu sais, même en étant un fan de Tanner Howe, ce gars-là est 5 pieds 11, support offensif. Tu as des joueurs qui sont laissés de côté, qui sont plus grands dans le cas de Seneca, ou bien qui sont de la même grandeur, puis qui sont pas juste des supports offensifs, qui sont des dynamos offensifs qui t'amènent. Tu sais, Riley Hite, là, je comprends pas. Comment est-ce que tu peux prendre Tanner Howe à la place de Riley Hite? Qui est justement, tu sais, pas au moins un Crystal, tu pourrais lui critiquer, tu dis, hey, il triche, tu sais, les mêmes critiques qu'il y a eu depuis les deux dernières années, puis que nous aussi, tu sais, c'était une raison pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans notre top 10 dans cette année-là, qu'il n'était pas dans notre top 16 cette année-là, je pense qu'on a fait le mock draft. On a souvent parlé des problèmes qu'on avait avec Andrew Crystal, mais tu as d'autres joueurs qui sont laissés de côté, comme Riley Hyde, qui n'ont pas ces problèmes-là, qui performent autant bien, qui performent mieux que Tanner Howe, qui sont laissés de côté. Je comprends absolument pas cette décision-là, honnêtement.
Puis regarde, moi je vais en nommer un autre, là. Je vais dire un de mes préférés, Denver Barkley, est un joueur fait pour être sur un bottom six d'une équipe avec du talent comme ça. Denver Barkley peut produire, peut agacer l'autre équipe. C'est des joueurs que je trouve qui fait tellement dans le moule. Et c'était quoi le gros point à la fin du World Junior 2024 pour le Canada, qui ont perdu en quart de finale, je le rappelle. C'était que le Canada était pas assez muni offensivement, il était pas assez rempli, il avait essayé de trop faire comme cette année, une espèce de line-up parfait là, en se disant OK, on est parti pour une saison de 82 matchs, on a besoin de notre grit, on a besoin, alors que en réalité là, dans le World Junior, c'est 7 matchs si tu te gagnes ou si tu vas jusqu'à la fin là. Puis en 7 matchs, tu as juste besoin que tes meilleurs gars se pointent. Puis je comprends qu'il t'en veut défensivement, mais à un moment donné, là, genre, tu regardes juste une équipe Team Canada B, là, puis je pense qu'elle peut rivaliser avec la Team Canada A en ce moment. Puis, je suis vraiment content qu'il y ait des gars comme Morton, McKenna, je pense que c'est indiscutable qu'il soit pas invité. Tu sais, mettons, McKenna, c'était sûr qu'il avait sa place. Puis là, il était sur la première ligne à l'aile, donc j'ai vraiment hâte de voir. Mais, tu sais, Matthew Schafer, c'est cool, mais, je veux dire, il y a des gars qui sont pas invités. Qui, tu sais, Easton Cowan est bien, Ethan Gauthier, je veux dire, c'est le fun parce qu'il est québécois, mais est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, est-ce qu'on
Mais
peut vraiment se dire comme.
au moins, Ethan Gauthier, c'est que c'est un
C'est un gars de top
allié qui peut
bottom
amener
six.
un côté offensif, tu sais, qui pourrait jouer sur un
Ouais.
bottom six. Moi, c'est plus ce qui me scotche, tu
Complètement.
sais. Tanner Howe, je l'ai dit, mais Luca
Ouais, Tanner
Pinelli, il est
Howe, ouais.
5 pieds 9. Quand on projette les lignes là, de Team Canada, Luca Pinelli, c'est un joueur qui va se retrouver sur la 3e ou 4e ligne, 5 pieds 9, qui produit moins bien que genre, tu sais, même pour vous montrer à quel point il y en a, là, qui produit moins bien qu'un autre joueur, Grayson Sachin. qu'on parlait, pas pour le repêchage 2024, mais pour le
Oh
repêchage
boy.
2023, qui est 6 pieds, qui amène justement ce rôle-là de qui a déjà gagné, qui est déjà allé à la Memorial Cup en remplissant exactement ce rôle-là dont Team Canada ont besoin, en amenant un apport offensif plus grand, qui produit mieux, puis qui lui se fait laisser de côté, alors que Lucas Pinelli est là. Encore une fois, Lucas Pinelli, un super bon joueur qui produit bien cette année, mais compare ça à Missa, compare ça à Sachin, compare ça à Denver Barkley. Je comprends pas, je comprends pas. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est de l'incompréhension, là. Je comprends pas cette décision-là.
Non,
Pourquoi tu voudrais un
c'est
gars de
ouais.
5 pieds 9 qui produit moins bien que d'autres joueurs sur ta quatrième ligne? Ce n'est pas logique.
Puis qu'est-ce qui me fait rire, c'est que le coach, après, il a commenté comme quoi il regardait pas les dates de naissance. Parce que souvent, on se dit, OK, ils vont favoriser les gars de 19 ans, de 18 ans, mais là, clairement, ils ont pas regardé parce que Yakimchuk a une place sur ce line-up-là. Je peux pas, genre, justement, comme toi, tu as dit, je les connais pas toutes parfaitement. Là. Je veux dire, Sauer, Mignot, je l'ai vu
Ouais.
peut-être une ou deux fois, mais c'était un cross, là, dans le sens que j'ai pas regardé Sauer Mignot, j'ai regardé un autre joueur, puis il jouait. Donc, tu sais, j'ai pu prendre des petites notes mentales sur lui, mais dans le sens, je regarde le line-up. Andrew Gibson, c'est un parfait bottom six. Tu sais, comme E.J. Emery, là, un peu, là. Le gars shutdown, il frappe, il fait mal. Tu
Ouais.
sais, puis ça, je peux comprendre. Une chance que Sam Dickinson a été pris, parce que sinon, tu regardes ça, tu fais Yakimchuk, pareil, qui sont pas là, comme tu dis, c'est des gars qui, offensivement, mais il y a aussi Yakimchuk, le côté, rudesse qui peut amener. Donc, je pense que pour parler du Canada, on parle de ceux qui sont pas là, puis tout en même temps, ben, on va complimenter ceux qui sont là. Tu sais, moi, Tanner Mullendack, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Pour l'instant, ça a l'air d'être Schaefer qui est le premier QB du premier
Ouais.
powerplay, puis Mullendijk le deuxième. Puis je veux dire, Schaefer, j'ai vraiment hâte de le voir parce que selon moi, c'est le joueur à repêcher premier. Puis si le Canadien repêche dans le top 2, il faut espérer que l'équipe, mettons, qui repêche premier n'a pas besoin d'un défenseur, là. En tout cas, si Schaefer est repêché par le Canadien de Montréal, c'est comme... Ciao, bye, on est set pour des belles années, là. Mais c'est ça. Et, en tout cas, je regarde l'offensive, c'est intéressant. Je veux dire, Callum Ritchie a déjà joué à la LNH. T'sais, McKenna, je pense qu'il va avoir un
Ouais,
tournoi
ouais.
incroyable. C'est même pas son dernier tournoi, lui.
Non, ça c'est cool.
Berkeley Cadden, ça va être intéressant de voir. Easton Cowan. T'sais, c'est sûr, là, il y en a du poids, là. Puis t'sais, il y a le meilleur pointeur, je sais plus si c'est l'est encore, là. En le disant, j'ai comme fait, c'est-tu le meilleur pointeur encore, mais Catafor, pas du tout, ça l'est plus vraiment pantoute, mais Catafor, tu sais, ça a été le meilleur pointeur l'année passée, et il y a une saison vraiment incroyable en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on peut pas rien enlever aux gars qui sont là. Je veux dire, les gars qui sont là, c'est quand même dans le top peut-être 30-40 joueurs de leur âge
Ouais.
du Canada. Donc, c'est tous des joueurs avec un excellent sens. T'sais, pas du jeu, mais du hockey, là. C'est les meilleurs joueurs. Donc, on peut pas bet contre eux, mais je pense qu'on aurait pu avoir une équipe encore plus puissante. Puis c'est ça, moi, je trouve ça étrange parce que l'année passée, l'équipe Canada ont fini vraiment pas à l'endroit où est-ce qu'ils voulaient être. Et la grande critique, c'était il n'y avait pas assez de force offensive, il n'y avait pas assez de push. Et là, tu enlèves des gars comme Crystal, tu enlèves des gars comme Seneca, tu enlèves des gars comme Riley Hate, comme TJ Ginla. Tu enlèves de l'offense, tu enlèves des buts, tu enlèves des points. Moi, j'ai bien hâte de voir, ben, tu sais, on les met premiers parce que Canada, c'est comme à chaque année, c'est ça les expectations. Mais ben, on dirait que je regarde ça puis je me
Ben,
dis, il y a un case pour qu'il y ait deux, trois équipes qui peuvent leur faire mal vite, là.
c'est ça. On dirait qu'ils ont build une équipe pour. Tu sais ce que j'avais vu aussi, Alain. J'avais vu quelqu'un qui disait on dirait qu'ils voulaient laisser une chance aux autres. C'est qu'en ce moment, ils ont une équipe extrêmement solide avec des joueurs qui amènent plein d'aspects différents, mais qui, justement, tu sais, si Team Canada se faisait battre par les États-Unis ou bien la Suède, ce serait pas un énorme choc, là, comme on dit. Là, c'est une équipe
Non.
qui aurait pu être vraiment plus dominante que ce qu'on pensait, mais bon. Tu l'as dit, on ne peut pas parler de Team Canada sans parler des joueurs qui ont été laissés de côté. Maintenant que ça c'est fait, parlons un peu de, tu sais, qui est là, ce qui va être intéressant à regarder. Je pense qu'il y a quand même des gros points forts. Tu l'as dit, c'est Mathieu Catafor. Bon, on va voir où est-ce qu'il joue, mais je pense que, tu sais, si on parle de bottom six pour une équipe comme Team Canada, c'est vraiment le joueur idéal. Il couvre énormément de glace, puis sa bonne production qu'il y a cette année. On peut aussi, tu sais, noter que ça a été avec Rimouski qui ont eu beaucoup de misère à se trouver cette année, puis il a vraiment été capable d'être le leader dans beaucoup d'aspects de leur jeu. C'est un gars qui est capable de mettre la pression, de finir les jeux, de créer les jeux pour les autres. Puis, tu sais, on parle quand même du MVP de la LHGMQ l'année dernière. Donc, vraiment, tout un joueur, puis un peu le joueur idéal de bottom six que, justement, Team Canada cherchait. Sinon, Tu as parlé des gros noms, c'est Mekena, ça va être 2 ans. En tout cas, là, c'est le tournoi où il faut qu'il prouve que c'est un talent générationnel, ce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réaliser que seul l'est. Et aussi en défense, on a la dynamique Sam Dinkinson et Oliver Bonk, ces deux joueurs qui ont mené leur équipe extrêmement loin, en pair, ensemble, l'année passée à la Coupe Memorial. Bon, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, mais c'est de prendre ces deux-là ensemble, dans ma tête, c'est juste logique. Ils comprennent comment est-ce qu'ils marchent, ils savent quand est-ce qu'ils ont besoin de laisser l'autre y aller, fait que ça ne me surprendrait vraiment pas que ça soit une des pairs qu'on voit. Callum Ritchie, tu l'as dit, un peu à la Jett Luchenko qui est dans l'équipe aussi, c'est un joueur qui se fait prendre plus tard au repêchage, qui surperforme au camp LNH, puis qui là maintenant, tu sais, arrive, puis c'est un des gros noms de l'équipe quand, à la base, quand on l'avait vu, peut-être que c'est pas ça qu'on pensait, tu sais, quand on a vu qu'il serait repêché 27e, il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui n'auraient même pas pensé qu'il serait là, puis un peu dans le
Juste
même
ça, parce que
cas.
t'as parlé de Dickinson et Bonk à la pratique. C'était Monahan Gibson, donc deux gars de Nashville.
Ouais.
Schaefer avec Bonk. Puis
OK.
Dickinson était sur la quatrième paire avec Bowiecki. Donc, ils
Ben,
les ont
écoute,
séparés.
je pense que ça montre vraiment la versatilité de Schaefer, là. Je pense que c'est justement parce que Bonk aussi a un upside offensif. C'est un défenseur qui peut amener de l'attaque. Puis
Ouais,
Schaefer, c'est la
excellent.
même chose, mais il peut couvrir les deux. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on parle un peu de Schaefer comme potentiel numéro un, là. À quel point est-ce que tu peux le mettre dans un rôle où il a besoin d'être défensif puis il va exceller, versus quand tu peux le mettre dans un rôle puis tu lui demandes d'être plus offensif, à quel point il peut exceller. Donc c'est un joueur qu'on pourrait lui demander, admettons, de quand c'est en 5 contre 5, plus être défensif, puis après ça, le mettre quarterback sur le power play. Puis comme tu l'as dit, c'est exactement le type de joueur qu'on aurait besoin à Montréal. Puis pour finir aussi sur Team Canada, je pense qu'on est obligé de nommer aussi un autre joueur un peu dans les mêmes eaux que Callum Ritchie, donc Bradley Nadeau, qui a été pris en Caroline dans les 20 quelques picks. Je pense que c'était 22, je me souviens plus exactement. Mais c'est ça, un attaquant qui a commencé, qui a fait ses débuts en AHL cette saison, 15 points en 22 matchs, donc ça marche vraiment bien. Et puis, un peu à la Édouard Salé, je vois pas de raison pourquoi est-ce que justement cette production-là se transférerait pas au World Junior. Puis, si je m'attends à un des meilleurs pointeurs du tournoi en Bradley Nadeau, puis un peu justement un vétéran dans cette équipe-là qui va pouvoir montrer vraiment l'exemple aux autres. Puis c'est un gars qui, justement, il n'y a pas beaucoup de gars dans cette équipe-là à cause de la règle CHL, AHL de 20 ans qui ont. En fait, je pense qu'il n'y en a aucun autre qui joue en AHL, à moins que je me trompe, mais c'est ça, c'est
Du
que
Team
c'est le.
Canada,
C'est ça, c'est le seul qui va avoir cette
c'est le
expérience
seul.
pro-là. Fait que, tu sais, c'est comme quand on voit des joueurs comme Brent Clark retourner en junior. Oui, il y a l'aspect qu'il domine sur la glace, mais c'est aussi justement pour être un leader dans l'équipe. Puis Bradley Nadeau, c'est un gars qui est entouré, qui joue, qui performe bien avec des gars de, tu sais, dans la AHL, et des gars de 28, 29, 30, whatever. Il y a des gars vraiment plus vieux. Fait qu'il va pouvoir amener ce leadership-là. Puis j'ai hâte de voir justement si dans cette équipe-là, si c'est lui qui se fait donner un assistant capitaine, capitaine de l'équipe. Je serais vraiment pas surpris. Hein.
Ça n'a pas été sorti encore. Puis
Ouais.
même que je dirais, Nadeau, il était en déplacement. Donc, il n'a même pas encore. Ben en tout cas, à date, il n'y a pas eu vraiment de pratique avec lui.
Ouais, il n'a même pas eu à faire le camp. Lui, c'était déjà dans l'équipe.
Non, c'est ça. Puis je pense que, Team Canada, ils ont encore quelques joueurs à tasser. En tout cas, je ne me rappelle plus des règles exactement. Mais là, ils ont comme trop de joueurs. Mais comme le. Parce que je sais que, mettons, les équipes comme la Finlande et autres peuvent arriver avec plus de joueurs au cas où de blessure pour pas avoir
OK.
à call, mais tu sais, c'était arrivé à Hoenbeck, mais lui, c'est parce que c'était au Canada, lui, c'était à Moncton, fait qu'il l'avait, tu sais,
Ouais.
le Canada, comme c'est les autres, ils ont peut-être pas besoin d'amener plus de joueurs, alors que je pense que les autres équipes peuvent amener 28 joueurs, puis le Canada doit en amener 25.
Puis
Donc peut-être qu'il y a encore des petites coupures à faire, là.
je voulais aussi mentionner, j'ai oublié, là, tu sais, on parlait de first overall, là. En tout cas, je pense que les deux, on a dit un peu que c'était Matthew Schaefer qu'on aimait voir là. Moi, sa vraie compétition, je pense que c'est James Higgins, mais faut quand même, tu sais, mentionner Porter Marton aussi, là, vraiment à garder des yeux dessus. Il y a plusieurs personnes que, justement, le mix de physicalité et de production les ont fait le mettre numéro un. Je me souviens plus de quel analyste exactement l'ont mis numéro un, mais il est numéro un sur plusieurs listes. Donc, encore une fois, avec des joueurs le meilleur des autres pays, ça va être curieux justement de le voir. J'ai hâte de le voir jouer contre, admettons, si ça se retrouve que ce match arrive, de le voir jouer, admettons, contre une défense solide, solide contre la Suède. Est-ce que Il est capable de, t'sais, changer un peu son jeu à cette équipe-là pour aller quand même avoir un impact offensif, ou bien est-ce qu'on va le voir changer de rôle un peu? J'ai hâte de voir, mais t'sais, encore une fois, j'ai dit qu'il y en avait trois pour le numéro un. Dans ma tête, les favoris, ça va être Schaefer ou James Higgins, mais Porter Marton, t'sais, à ne pas exclure de la conversation, peut-être que ce gars-là va surprendre puis montrer qu'il est pas mal plus proche des autres que ce que certaines personnes pensent ou bien pensaient au début de la saison, parce que ce gars-là surperforme depuis le début de la saison. Là, les numéros de Porter Marton sont incroyables, c'est
Oui,
n'importe
c'est
quoi.
ça. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, puis je pense pas que ça va être vraiment dans ce tournoi-là qu'il va pouvoir le montrer tant que ça, mais c'est est-ce qu'il est vraiment dominant ou il est dominant à cause de sa forme physique, puis du fait qu'il, tu sais, c'est ce genre de joueur-là, tu te dis, tu sais. Puis aussi, faut pas oublier qu'il y a Caden Lindstrom qui est blessé, qui aurait pu sûrement être ajouté à cette équipe-là. Donc, tu sais, en tout cas. Ça va être intéressant de voir, comme à chaque année, Canada et États-Unis sont comme les deux favoris. Puis là, ben, la Suède, moi, je pense qu'ils peuvent vraiment entrer dans le mix. Finlande, ça va être difficile. Mais au final, regardez, ça va être ça le tournoi cette année. J'ai bien hâte. Je pense que les matchs préparatoires, si je me trompe pas, il y a des matchs préparatoires qui commencent quand même assez bientôt. Mais c'est pas marqué
Ouais,
sur le
on n'a pas
site,
les dates
donc je peux
exactes, ouais.
pas. Non, mais d'habitude, c'est comme autour du 22-23 là, qu'ils ont quelques matchs, puis ensuite, il y a une pause pour Noël,
Ouais, c'est
puis
ça,
ça
puis...
commence. Donc, c'est ça. Le 26 à midi, le premier match se déroulera entre la Suède et la Slovaquie. Et
Puis
le reste,
sinon,
c'est de
écoute,
l'histoire.
pour parler un peu plus de nos projets aussi, c'est ce qui clôt l'année 2024 pour Dans le Mille. Écoutez, hein, une année avec beaucoup de changements, beaucoup d'épisodes. Puis, comme vous avez vu aussi, le lien va être dans la bio, comme d'habitude. On a notre chaîne de Dans le Mille. Vous avez déjà un bon nombre d'analyses de prospects pour le repêchage 2025 sur la chaîne. Je pense 7 qu'on totalise en ce moment. Mais il va en avoir encore plus en 2025. On reprend les podcasts, t'sais, les mardis soirs. Là, ça a été un peu plus irrégulier à cause de choses qui sont hors de notre contrôle. C'est la vie qui a fait que ça soit comme ça. Mais les épisodes n'ont pas été les plus réguliers depuis le début de la saison 3 de Dans le Mille. Mais là, en 2025, on reprend ça vraiment. On va parler de la LNH. T'sais, tantôt, tu parlais de Buffalo. Ça peut être un sujet intéressant d'épisode. Il y a tellement de choses que on n'a pas parlé. C'est ça qui est l'avantage d'avoir pris un peu plus de période entre les épisodes. Donc, attendez-vous à une année 2025 chargée pour Dans le Mille, un retour en force, que ce soit pour les podcasts ou pour les analyses. Puis, je souhaite un bon temps des fêtes à tous ceux qui se sont rendus à nous avoir écouté parler pour 1h20. Je vous apprécie énormément. Puis, on se retrouve en
Merci beaucoup.
2025.
Ben c'est ça, comme tu dis aussi, on va souhaiter une année avec de la régularité.
Exactement.
Surtout de mon côté, on va espérer. On va espérer.
On croise les doigts. Merci à tout le monde d'avoir écouté, là.